puis c'était Stéphane Eicher sur la première. Et puis juste avant, c'était Nicolas Morand, ingénieur EPFL et responsable de projet de développement pour Helvetas, rencontré en Haïti par Arnaud Robert, 10h31. Avant de poursuivre la discussion autour de l'aide humanitaire et de l'aide au développement, eh bien, un détour par les routes de Suisse romande.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Yverdon-Lausanne, le canapé précédemment signalé sur la voie de droite entre l'échangeur d'Esserpitet et la jonction de Chavornay en direction de Lausanne a été récupéré. Il n'y a plus de danger sur ce tronçon. Eh bien, tout va bien. Et bonjour Marc-Antoine Schupfer.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous de Genève. Vous êtes historien et enseignant, spécialiste en histoire orale, responsable de la production de l'exposition L'autre côté du monde, histoire de la Suisse humanitaire, une exposition qui tourne depuis pas loin d'une année et dont la prochaine étape en Suisse romande sera à la bibliothèque de la Cité à Genève du 17 février au 31 mars. Marc-Antoine Schupfer, vous avez entendu le reportage d'Arnaud Robert auprès de Nicolas Morand quand il lui demande de se défier. Nicolas Morand a un peu de peine, hein, coopérant, humanitaire, il finit par dire expatrié, voilà. Il y en a quand même un grand nombre de ces expatriés suisses qui, de par le monde, font du développement, font de l'aide humanitaire. J'imagine que le nombre est difficile à établir, mais peut-être est-ce qu'on a une idée du nombre d'organisations d'aide que compte la Suisse ?
Pour un ordre de grandeur, je dirais 3000 organisations non gouvernementales en Suisse qui sont actives dans ce domaine. Donc ça va des très grandes comme Helvetas, vous l'avez mentionné. Il y en a un grand nombre, Caritas, Les Pères, et des toutes petites aussi de quelques personnes qui se mobilisent et qui arrivent à trouver des fonds en Suisse et aider une communauté en Afrique. En Asie ou en Amérique du Sud.
Voilà, on en connaît tous. Hein, on a tous un ami, l'ami d'un ami qui fait partie d'une de ces associations, grandes ou petites. Il y a une grande tradition de l'aide humanitaire en Suisse. On peut dire ça comme ça. Il y a une longue et vieille tradition en Suisse, Marc-Antoine Schupfer.
Alors oui, on peut dire longue. Disons qu'il faut déjà distinguer deux choses. Bien comprendre qu'il y a ce que Nicolas Morand a mentionné, l'aide d'urgence, et ce qu'il appelle la coopération au développement, donc qui est une aide à plus long terme. L'aide d'urgence, le début en fait a été initié par le Genevois Henri Dunant.
C'est la Croix-Rouge, hein, c'est voilà. Milieu 19e.
Dans les années 60 du 19e siècle, l'idée étant de pouvoir avoir un corps qui puisse porter de l'aide aux blessés sur les champs de bataille. Ça, c'est sa première idée, donc qui crée la Croix-Rouge. Et de là, par le mouvement de Croix-Rouge, il y a plusieurs déclinaisons, donc les Croix-Rouges nationales qui vont être créées assez rapidement, en Europe d'abord et ensuite partout dans le monde. Elles sont réunies en fédération des Croix-Rouges et du Croissant-Rouge. Vous avez la Croix-Rouge suisse qui est bien connue chez nous et finalement le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, et qui a comme une de ses missions principales, c'est de veiller au respect des conventions de Genève, donc entre guillemets le droit, les lois qui régissent la guerre, si on veut. Et autre chose que fait le CICR, c'est la visite aux prisonniers.
Mais alors ça veut dire que vraiment cette aide humanitaire commence avec la création de la Croix-Rouge. Avant, il n'y a pas de prémisse de ça.
Alors non, bien l'aide humanitaire, ça existe depuis la nuit des temps. Toutes les communautés ont toujours essayé d'aider celles qui étaient proches d'elles et plus loin. Mais si vous voulez, ce mouvement de Croix-Rouge est une des bornes. Et surtout, on commence ce qui est nouveau en fait, c'est de pouvoir aller entre deux fronts. Ça, c'est la nouveauté.
Et c'est qu'on organise en institutionnaliste cette aide.
Exactement. Et puis on a ce symbole qui montre on est un groupe de personnes est neutre et on doit pas les attaquer. Et c'est le but, c'est d'aider les blessés. Maintenant, à côté de ça, il y a l'aide au développement justement, qui elle aussi se développe de façon institutionnalisée dans les années 60 cette fois.
Du 20e siècle cette fois.
Du 20e siècle, oui, donc 100 ans plus tard. Avec en Suisse la création de, à l'époque ça s'appelait le service d'aide technique, qui est devenu la DDC aujourd'hui, donc la Direction du développement et de la coopération. Et avant cela, il y a les les premiers, si vous voulez, au XXe siècle, ce sont les missions, donc catholiques et protestantes, qui aident des communautés en Afrique notamment, en Asie aussi, à développer des choses essentielles, des systèmes sanitaires, des systèmes d'adduction d'eau, pour justement lutter contre la misère.
Il y a une rupture, on va dire ça comme ça, dans l'histoire de l'aide humanitaire suisse. C'est tout de même la Deuxième Guerre mondiale qui marque un jalon important dans l'histoire et dans l'évolution de cette aide, Marc-Antoine Schupfer.
Oui, alors donc la Seconde Guerre mondiale, c'est une rupture, donc le pays se ferme complètement, si vous voulez, et pendant 6 ans, on est entouré on est l'îlot au milieu de l'Europe qui est épargné par la guerre. Du coup, dès la fin de la guerre, il y a cette envie un petit peu de se racheter aussi, et on crée notamment le don suisse. Donc l'idée est de reconstruire l'Europe, aider à reconstruire l'Europe. Donc on va d'abord, dans les fin années 40, début 50, aider à la reconstruction en Europe. Et ensuite, on commence à se tourner vers les autres continents. Il y a l'ancêtre de Helvetia, c'est ce qui s'appelle le SCHAG, les initiales en allemand pour une organisation pour l'aide extra-européenne. Donc on va commencer à monter des missions, les premières sont...
Où est-ce qu'on va d'abord?
Alors, justement, on se tourne vers... Ce ne sont plus nos voisins, mais ce sont nos semblables ailleurs dans le monde. Donc des petits pays montagneux, il y a le Népal, il y a le Rwanda... Il y a la Bolivie, par exemple.
On cherche des pays qui nous ressemblent d'abord.
Un petit, voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'on y apporte ? On y apporte ce qu'on sait faire. Donc notre industrie fromagère. On va par exemple apprendre aux Népalais à faire du fromage à pâte dure. Or, les Népalais ne mangent pas de fromage à pâte dure. Ils mangent du fromage mou. Et donc finalement, ce fromage produit là au début des années 50, qui est-ce qui le rachète ? C'est l'industrie touristique qui commence un petit peu à se développer. Donc on voit déjà qu'il y a des espèces là on a visé à côté de la cible, si vous voulez. Ensuite, il y a l'élevage aussi. Donc, des vaches suisses vont être croisées avec des zébus au Kerala, par exemple. Et on développe une nouvelle race. C'est ce genre de projet. Donc, on exporte notre technique. D'ailleurs, le nom de l'organisation avant DDC, c'est bien ça, c'est l'aide technique.
Mmh. Aujourd'hui, on exporte toujours de la technique.
Alors, on en exporte, mais ce que Arnaud Morand expliquait très
Nicolas
bien.
Nicolas Morand, oui.
Nicolas, pardon. expliquait très bien, c'est qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que apporter notre savoir-faire, montrer comment il faut faire, ça ne marche pas. Ce qui fonctionne beaucoup mieux, c'est que les gens sont impliqués. Et donc aujourd'hui, on va vers les communautés et on discute avec eux. On n'est plus des gens qui amenons un savoir-faire, du matériel, etc. Mais on se met exactement au même niveau qu'eux et on devient des partenaires. Et ça, c'est une des évolutions importantes dans l'aide au développement.
Une des évolutions et un des souhaits, un but qu'appelle de ses voeux, notamment Nago Humbert, je crois que vous le connaissez, vous avez travaillé avec lui, vous l'avez consulté pour monter cette exposition que l'on pourra bientôt voir à Genève, Marc-Antoine Schupfer.
Oui, Nago Humbert. Donc Nago Humbert est président de Médecins du Monde, qui est une de ces ONG françaises à l'origine, mais il y a une Suisse aussi, un groupe Médecins du Monde suisse. Et donc nous l'avons interviewé dans le cadre de notre projet d'histoire orale duquel on tire l'exposition L'autre côté du monde, tout à fait.
Histoire de la Suisse humanitaire. On va entendre Nago Humbert, qui n'a pas pu être en direct avec nous parce qu'il est en ce moment à Montréal et que le décalage horaire fait que c'est un peu tôt pour lui, mais nous l'avons interviewé hier. Je vous propose de l'entendre dans quelques instants, mais on va prendre encore des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur le contournement de Lausanne, la voie de droite est fermée à la circulation entre la jonction de Lausanne-Blecherette et l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en direction de Genève, suite à l'incendie d'un véhicule. Et sur l'axe Vevey-Fribourg, un accident perturbe le trafic entre la jonction de Bulle et la tranchée couverte de Gumfens en direction de Fribourg. Toujours dans le canton de Fribourg, la circulation s'écoule difficilement sur la voie Wüsternance devant Romont-Boulot, entre les localités de Lajoux et des Écassets. En raison d'un accident, les opérations de secours et dépannage sont prévu jusqu'à 11h30 environ. Et donc, je vous disais, Marc-Antoine Schupfer, on va entendre Nagon Humbert, vous l'avez dit, président de Médecins du Monde Suisse, professeur adjoint du département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine de Montréal. Nagon Humbert qui a signé le 12 janvier dernier, le jour anniversaire des 2 ans de tremblement de terre en Haïti, une tribune dans le temps intitulée pour des ONG non malfaisantes. Alors, première question à Nagon Humbert, de quelle manière une ONG peut-elle être malfaisante ?
Alors je pense qu'il y a des endroits où on sait mieux qu'on n'y soit pas. Et moi, j'ai 4 questions à poser toujours, qu'on doit se poser avant d'intervenir quelque part. Hein. Il faut répondre à ces 4 questions. Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose ? Est-ce que vous êtes attendu ? Est-ce que vous serez accompagné ? Et la 4e, comment vous allez sortir de là ? Et quand vous allez sortir de là ? Si vous ne répondez pas à ces 4 questions avant de partir et que vous n'avez pas de réponse, surtout, il ne faut pas y aller. Je crois que c'est très très important, parce que c'est un petit peu le néocolonialisme, le nouveau colonialisme des pays du Nord, de penser qu'on sait tout, qu'il n'existe rien dans ces pays du Sud, qu'il n'y a pas de structure, et notamment médicale, et puis que nous on va leur expliquer comment faire. Et je crois que comme on dit ici, on ne peut pas être contre la vertu, souvent on dit oui mais quand même je donne mon temps, je risque ma vie des fois à partir là-bas, quand même je veux faire le bien. Oui mais des fois le bien ça peut être aussi pire que la réalité. Et c'est là-dessus que je suis un petit peu dubitatif. On avait connu le tsunami. J'ai eu l'occasion, au niveau de Médecins du Monde, de l'international de Médecins du Monde, d'un petit peu coordonner ça. Et les gens disaient, il faut absolument qu'on y soit. Hein. Je veux dire, toutes les ONG voulaient y aller, les projecteurs étaient là, les bailleurs étaient là aussi. Et je pense que le bailleur ne peut pas créer le lieu où aller. Nous, on a des difficultés énormes à Médecins du Monde Suisse, à trouver des financements pour certaines missions qui ne sont pas glamour. On s'occupe d'un comme le problème qu'est la drépanocytose, qui est une maladie de l'hémoglobine qui tue énormément d'enfants avant 5 ans dans les pays africains. Et on a une mission au Bénin, on a beaucoup de difficultés, parce que le Bénin, c'est pas glamour, parce qu'il n'y a pas de guerre, parce qu'il n'y a pas de catastrophe. Et là, ma grande peur, c'est que les humanitaires, entre guillemets, aillent où ils vont pouvoir financer leur mission. Ça, c'est la première chose. Alors, dans des missions d'urgence, comme Haïti, nous ça faisait 15 ans qu'on y était, hein, et qu'on travaillait dans, justement dans la région de Petit Goave et de Grand Goave, avec ce qui reste ou ce qu'il y avait de structure du gouvernement haïtien, on était les seuls sur le plan de la santé là. Le lendemain, il y avait à peu près 200 ONG qui avaient débarqué et qui ont complètement déstabilisé le pays.
Et pourquoi ça déstabilise ?
Alors, je vais vous donner 2 exemples. Lors du tsunami, les ONG médicales, notamment, ont complètement déstabilisé toute l'industrie pharmaceutique qui existait là-bas, en amenant des médicaments. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nie. Quand vous arrivez en Haïti, que vous montez une tente à Port-au-Prince, que vous commencez à faire des accouchements, et que derrière, sur un balcon, il y a 4 gynécologues haïtiens qui regardent faire, parce que finalement, on leur a pris leur gagne-pain, parce que les haïtiennes vont plutôt aller dans la tente des Blancs, vous allez déstabiliser le pays. Quand vous savez qu'en Haïti, 95% des soins de santé sont donnés par des privés ou des ONG, ce qui est un scandale, on est bien d'accord, un scandale pour le pays, je dis bien, eh bien, il faut savoir comment travailler avec les structures existantes pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de là en donnant ça, en transmettant ça au pays où on va. Et si on part, comme les ONG s'en vont en Haïti maintenant, hein, je crois que c'est important de savoir quand même. En décembre, dans la région de Grand Goave, 1200 licenciements de personnel local par les ONG qui s'en vont. C'est 1200 familles qui seront encore plus pauvres qu'il y a 2 ans. Tout ça, on a une responsabilité de ne pas créer le chaos en plus. Moi, je suis un pour la fidélité, c'est-à-dire pour un assez long terme avec les gens, pour des coopérations avec les gens sur place, qui ne sont pas plus bêtes que nous, mais plus pour ces espèces d'opérations coup de poing, comme je dis. Donc, je crois que je ne mélange pas l'acte individuel, l'engagement individuel des gens qui veulent aller sur le terrain, avec les stratégies de certaines organisations. Pour moi, l'humanitaire n'existe pas. Ça veut rien dire, l'humanitaire. Il y a des hommes, il y a des femmes, comme vous et moi, qui avons une expertise particulière, qui décideront un jour dans notre vie de la mettre à disposition de gens moins favorisés. C'est tout. Vous le faites pour vous d'abord, vous le faites pour votre expérience personnelle aussi de vie, et ensuite il vous faut trouver celui ou celle qui va vous amener sur ce train-là. Vous pouvez partir tout seul, puis aller monter votre clinique quelque part, et puis quand vous mourrez, il n'y a plus rien après. Vous pouvez partir avec une ONG, et il y en a beaucoup. Vous pouvez partir avec le CICR, vous pouvez partir avec l'ONU, enfin, il y a toutes sortes de façons de s'en aller qui ne sont pas du tout la même chose, hein, on est bien d'accord dans le travail. Mais je trouve qu'on prend de moins en moins l'avis des populations et des structures qui sont sur le terrain. À Médecins du Monde Suisse, on ne travaille qu'en partenariat, soit avec des gouvernements s'il y en a, soit avec des ONG locales. Moi, ce que j'aimerais, je parlerai là plutôt des interventions d'urgence, hein. Moi, j'aimerais, et c'était Tony Frisch, l'ancien patron de l'aide humanitaire, qui m'avait proposé ça aussi à un moment donné, qui a eu cette idée-là, c'est éventuellement, est-ce qu'une certification des ONG suisses capable de faire de l'urgence? Et je ne parle pas pour ma paroisse, puisque Médecins du Monde Suisse ne fait pas justement une intervention d'urgence, à moins qu'elle soit sur le terrain comme elle l'était en Haïti. Donc je me sens très à l'aise de parler de ça. Je pense qu'on devrait avoir une réflexion là-dessus pour dire, eux, ils peuvent, parce que c'est un métier, hein, l'urgence. Et le chaos qu'il y a eu le lendemain du tremblement de terre en Haïti, cette effrayant ce qu'on a vu, on a tout vu comme ONG arriver parce qu'il fallait être là, et qui ont encombré non seulement les routes, mais enfin, en tout cas, qui ont empêché les gens de travailler aussi par leur présence. Alors, si on ne peut pas se coordonner sur le terrain, coordonnons-nous au moins en Suisse entre des ONG capables de pouvoir le faire. Moi, je pense que c'est la première des choses à faire. Le reste, ma foi, on peut que demander aux ONG d'avoir une éthique importante et une grande réflexion là-dessus, c'est tout.